Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je reconnais quelques visages d'hier. Hier, on a passé une sacrée journée entre femmes. Et il a fallu se remettre, hein. Je vous avoue, même moi. Et je suis donc ravie aujourd'hui de pouvoir vous partager un autre versant. C'est vraiment mon témoignage de vie, de foi avec Dieu. Alors oui, moi je suis Jeanne et comme il le disait, je suis missionnaire au Top Chrétien maintenant, à plein temps. Et c'était pas toujours comme ça. Ma vie, alors moi je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne avec un papa, un pilier de la foi. Famille nombreuse, on était 7 enfants. J'ai 6 frères et je suis la seule fille. Donc j'ai vraiment développé une relation très particulière avec mon papa. Forcément, quand on est la seule fille, le papa, il a un rapport particulier. Et mon papa, c'était un homme qui était plein de zèle. C'était un homme qui allait récupérer les sans-abri dans la rue, qui les ramenait à la maison, qui leur donnait pas juste à manger. C'est-à-dire que souvent, on se retrouvait avec des sans-abri à la maison et il les gardait avec nous. On les gardait avec nous des fois pendant... un mois, deux mois, je me souviens, un sans-abri, on l'a gardé pendant presque un an, jusqu'à qu'il soit pleinement apte à se réintégrer dans la société. Mon père, il était de ceux qui allaient voir les prostituées pour les amener à la maison et leur proposer un café et puis parler de Dieu. Alors bon, pour ma mère, c'était parfois compliqué, c'est sûr, mais elle connaissait le cœur de mon père. Et donc mon papa, c'était mon héros. Voilà, comme beaucoup de petites filles avec leur papa. Seulement, ce qui s'est passé pour mon père, c'est que un jour, on lui a dit qu'il était malade et qu'il avait un cancer. Il avait un cancer des poumons. Et en l'espace de un an, mon père a été emporté par cette maladie. Il allait rejoindre le Seigneur. Mon papa était incroyable parce que même quand il était à l'hôpital, il a demandé quelque chose de précis. Alors, il faut savoir que le cancer des poumons, c'est un des cancers qui fait les plus mal, hein, au niveau de la souffrance. Vraiment d'avoir de la bonne dose de morphine pour gérer la douleur. Et mon papa, il avait reçu de la part de Dieu qu'il pouvait enlever la morphine, qu'il ne souffrirait pas parce que Jésus avait pris sa douleur. Et le médecin lui a dit, mais écoutez, monsieur Tritch, non, moi, je vous conseille pas du tout d'enlever cette morphine parce que vous allez vraiment avoir mal. Et il a dit, j'ai la foi, je sais que mon Dieu a pris ma douleur. Et il lui a dû lui faire signer une décharge. Hein. Il lui a fait signer une décharge, ils lui ont enlevé les médicaments, ils l'ont mis sous monitoring, là, enfin, pour que vraiment il puisse voir comment son cœur battait, pour pouvoir voir aussi la douleur, comment elle était, si elle était intense ou pas. Et en fait, ils se sont rendus compte, effectivement, par miracle, qu'il n'avait aucune douleur. Et mon papa... ce qu'il faisait, et je pense que c'est pour ça que Dieu a permis ça, c'est que pendant les dernières semaines où il s'est retrouvé sans cette morphine, et finalement, parce que quand on est sous morphine, on est vraiment au ralenti, ça a beaucoup d'effets secondaires, il allait de chambre en chambre et il allait parler de Dieu aux gens. Il parlait aux médecins de sa foi. Et un jour, il a dit à ma maman qui est venue, il a dit, écoute chérie, je veux te prévenir. Dans 3 jours, je vais tomber dans un demi-coma. Et 3 jours après, je partirai auprès de mon père. Et ma maman, elle dit, mais non, qu'est-ce que tu dis chérie? Mais non, tu vas guérir et tout va bien se passer. Et voilà, le Seigneur est grand. Mais lui, Dieu lui avait déjà dit comment ça allait se passer. Et il l'avait accepté. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Mais vous comprenez bien que moi, quand c'est arrivé... dans mon cœur de petite fille de 10 ans, très attachée à mon père, c'était impossible que mon père meure. Un papa, pour une petite fille de 10 ans, c'est plus fort que la mort. On ne peut pas le concevoir. Donc quand mon petit frère a couru vers moi, lorsque je suis rentrée du centre aéré en me disant « Jeanne, papa, il est mort. » Ça a été un tel renversement que je vous assure que ce moment-là, les heures qui ont suivi, mon cerveau a fait un blackout. Je ne sais pas si j'ai pleuré, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cerveau a vraiment effacé ce moment-là. Par contre, ce qui s'en est suivi a été très compliqué. Moi, avec mon papa, il était du genre à prier avec moi, à faire des louanges avec moi. Il nous enregistrait quand on faisait des louanges ensemble. Et mon père, il avait quelque chose qui était pour lui très important, mais j'ai compris que par la suite pourquoi ça a été important pour lui. Il voulait à tout prix que je sois baptisée du Saint-Esprit quand j'étais petite. Et à l'âge de 9 ans, dans un temps de prière avec mon père, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et mon père, il est couru dans la maison. Chérie, baptisée du Saint-Esprit. Il était tellement heureux. Mais vous savez, ce que je me rends compte, moi, sur le coup, j'ai pas compris. J'étais contente que ça faisait plaisir à mon père. Et à ce moment-là, j'avais fait aussi cette démarche avec Jésus, cette démarche de petite fille. Mais se parler en langue, ce baptême du Saint-Esprit, je pense vraiment garder dans les moments les plus extrêmes de ma vie par la suite. À l'âge de 12 ans, 2 ans plus tard, vous savez, quand on a un tel vide d'un papa qui est parti comme ça, avec une maman qui est complètement dépassée par la situation, parce que beaucoup d'enfants, parce que très modeste, j'ai grandi dans une ZUP, j'ai grandi dans un endroit où il fallait soit se battre, soit il fallait en donner, soit on en prenait. Donc quasiment tout le temps de mon école, du collège, je n'ai fait que me battre, tous les jours, pratiquement. Sans compter les agressions gratuites des garçons, enfin bref. Donc d'abord j'ai commencé à être un vrai garçon manqué. Et quand l'âge de 13 ans, j'ai compris que je commençais à plaire aux garçons, que apparemment j'avais un potentiel, j'ai pris ça de manière complètement différente, j'ai switché et j'ai commencé à devenir celle qui voulait plaire. Avant, j'étais celle qui défendait tout le monde et maintenant, je voulais devenir celle qui voulait plaire parce que j'avais un vide énorme. J'avais ce vide-là du père qui était parti, je n'avais plus aucune reconnaissance. Je me souviens pas, et pourtant, je pense qu'il me l'a dit, hein, mais je me souviens pas que mon papa m'ait dit que j'étais belle, qu'il m'aimait, mais je me souviens plus, en fait. Et ma maman, elle n'avait pas le temps. Et donc, j'ai cherché ça auprès des garçons. J'ai cherché ça auprès des garçons très jeunes. À l'âge de 13 ans, je me suis retrouvée avec un jeune homme de 17 ans. Bon, 13 ans, j'en faisais pas 13 ans. Hein. 13, je faisais déjà 16, 17, effectivement. Et moi, j'étais bien de sentir juste que quelqu'un me regardait, que quelqu'un me prenait par la main, que quelqu'un avait juste de l'attention vers moi. Ça venait déjà remplir quelque chose d'énorme. Sauf que pour ce jeune homme de 17 ans, c'est pas ça qu'il voulait. Et donc, à 13 ans, j'ai eu mon premier rapport sexuel. J'étais pas prête, déjà. J'étais pas prête, parce que c'est pas ce que je voulais. J'ai pas osé dire non, parce que j'ai eu peur qu'il ne m'aime plus. Cette relation a duré ce qu'elle devait, 3 ans. Mais comme j'avais toujours ce vide du père, et qu'au final j'avais subi plus que voulu, un jour j'ai rencontré une autre personne, un homme de 26 ans, mon aîné. J'avais 15 ans, il en avait 41. Et je me suis mis en couple avec lui. Et je me suis retrouvée avec un potentiel papa, pour moi, dans mon cœur de jeune fille, parce que j'avais besoin. Voilà. Parce que j'étais complètement déviée dans ma façon de voir les choses. Parce que j'étais brouillée par ce manque affectif. Le problème étant, c'est que cette personne de 41 ans, pour se mettre avec une jeune fille de 15 ans, avait forcément des arrière-pensées. Et je me suis retrouvée pendant 8 ans sous son emprise. Et je suis devenue quelque part son objet sexuel. Il m'a dénigré, il m'a méprisé. Je peux dire qu'il m'a violé parce que j'ai dit non, mais il m'a obligé. Il a voulu faire des choses avec moi qui étaient juste pas possibles. Et j'avais plus du tout aucune estime pour moi-même. Je m'étais complètement anesthésiée, j'avais plus aucun regard positif sur moi, je me dégoûtais moi-même. Je n'arrivais même plus à me regarder dans un miroir, je ne savais plus sourire. Et en plus, j'ai eu un enfant, un petit garçon. Et j'ai envie de vous dire que ce petit garçon m'a sauvé la vie. Un jour, j'étais tellement désespérée, parce que je n'avais plus le goût de vivre, que j'ai décidé de programmer ma mort. Parce que j'avais plus de raison de vivre ici. Et donc là où j'allais au travail, il y avait une allée que j'ai toujours trouvée tellement magnifique parce qu'elle était bordée d'arbres. Vous savez, ces grandes allées-là, avec des arbres immenses, ça fait comme une espèce d'arc de cercle au-dessus de vous et je trouvais ça tellement beau. Et je me suis dit, c'est ici que je veux mourir. Et ce que j'ai fait, c'est que j'avais décidé de prendre ma voiture et d'aller à blinde me cracher dans un arbre. Alors pourquoi j'ai décidé ça? C'est juste parce que l'endroit me plaisait, je me suis dit c'est ici que j'ai envie de mourir, et vous savez quand l'ennemi vous prend dans vos pensées, c'est pas toujours très rationnel. Et donc un jour j'ai voulu faire ça, je suis partie le matin, comme si j'allais aller travailler, mais j'avais décidé que ça serait aujourd'hui. J'ai pris ma voiture, et au milieu de l'allée, j'avais choisi l'arbre, hein, c'était très précis, je mets les gaz, j'y vais à blinde. Je ferme les yeux, je tiens mon volant comme ça et je disais « Maintenant, c'est fini la douleur. » Et au moment où je dis ça, j'ai un flash qui me vient, une vision. Je me vois petite fille en train de dessiner sur une chaise de l'église avec mon père à côté de moi en train de lever les bras. Ça a été un électrochoc pour moi. Vraiment. Et ça a été un tel électrochoc que j'ai pilé. J'ai arrêté la voiture. Je ne sais pas combien de temps je suis restée prostrée dans cette voiture, à côté de cet arbre. Mais je suis restée très longtemps. Et je suis sortie de là, j'ai dit, il faut, avant que je meure, que je voie à nouveau cet endroit. Parce qu'on a fréquenté une église pendant toute ma jeunesse. Pour ceux qui la connaissent d'ailleurs, j'ai été présentée bébé à la porte ouverte chrétienne à Mulhouse par Papa Jean. C'est lui qui m'a bénie quand j'étais bébé. Et donc je me suis dit, il faut que j'aille voir cette église. Est-ce qu'elle existe encore? J'ai téléphoné à ma mère, j'ai dit, maman, est-ce que cette église-là, est-ce qu'il y avait des chaises comme ça? Parce que je voyais bien les chaises. Et elle me dit, oui, ça ressemble à ça. Je dis, mais est-ce que elle existe encore, cette église? Et elle me dit, mais oui, je pense que oui, elle existe encore. Je dis, est-ce que tu peux m'accompagner? Il faut juste que j'aille voir quelque chose. Et elle m'a dit, ok. Le 13 août 2002, je me suis rendue dans cette église. Et j'ai traversé cette porte, j'avais à peine 20 ans passé. Et j'ai reconnu les odeurs. Ça, c'est un truc de fou, hein. La mémoire sensorielle. Les odeurs, j'ai reconnu, cette atmosphère m'a reparlé à mon âme, en fait. Et là, je suis rentrée dans l'église, et ma mère avec moi, bon, je voyais qu'elle n'était pas très à l'aise, parce qu'elle aussi, elle y revenait depuis... Elle était plus revenue depuis très longtemps. Je m'assieds, c'est le temps de la louange. Et là, je me dis, je vois la chaise, je tiens la chaise devant moi et je dis, mais oui, c'est cette chaise, en fait, effectivement, c'est bien ça que j'ai vu. Il y a la louange, les gens qui commencent à parler en langue, je les regarde et je me dis, oula, ça fait tellement bizarre, ces gens à parler. Et pourtant, je parlais en langue, hein, mais les avoir tous entendus parler en langue en même temps, comme ça, ça me faisait tellement bizarre. Et j'avais quelque chose à l'intérieur de moi, une voix qui m'a dit, fous le camp d'ici. C'est pas ta place. Qu'est-ce que tu fais là? Regarde, ici tu perds ton temps. Et il y avait une autre voix qui me disait, reste, reste. Juste ce mot-là, reste. Et je me tenais à la chaise devant, en tremblant, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où j'ai lâché prise en disant, non, je vais rester. Bon, alors j'ai l'impression que je l'ai fait plus par espèce de fierté de me dire, mais non, mais je vais y arriver. Je vais rester. Ça a été physique pour moi. Quelque chose est venu me traverser. Comme quelque chose qui est rentré et ressorti. Quelque chose est venu me traverser. Qui m'a fait tomber à genoux. Devant tout le monde. moi qui étais très pudique en plus, à ce niveau-là. J'étais à genoux devant tout le monde et je me suis mise à pleurer. Ma mère comprenait rien. Je me suis mise à pleurer toutes les larmes de mon corps et je me suis vue d'en haut. J'ai vu comme si toutes les larmes qui sortaient de moi étaient noires. Ça faisait une flaque comme ça autour de moi, noire, et qui avait comme un faisceau de lumière qui me remplissait. J'ai vécu ce jour-là le toucher de Dieu dans son amour. J'ai compris ce que ça voulait dire, enfin, l'amour du Père, l'amour de Dieu. J'ai été transformée à ce moment-là. C'est comme si d'un coup, j'avais compris qu'il y avait une raison pour moi d'exister et que j'étais aimée sans rien devoir donner en retour. Je suis sortie de ce lieu complètement changée, transformée, totale. Je suis rentrée chez moi et donc j'étais encore avec cet homme de 41 ans avec qui j'avais un petit garçon de 2 ans. Et quand il m'a vue, il a ouvert la porte. La première des choses qu'il a fait, c'est un pas en arrière. Il a fait « Oh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je le regarde, je fais « Pourquoi ?» Il me dit « Ton visage a changé. » Et je le regarde, je dis « Oui, beaucoup de choses ont changé, en effet. » Et il faut savoir que cet homme-là m'avait fait comprendre que je n'avais rien à dire, que ce que je pensais ne servait à rien, que ce que je disais ne servait à rien, et qu'au final, j'étais juste là pour le servir et assouvir ses besoins. J'ai essayé pendant tout un temps de lui faire entendre parler de Dieu, de lui faire comprendre qui était Dieu et ce que j'avais vécu. Et il a refusé. J'étais même allée jusqu'à demander au père de Déborah, qui est ici présente, de venir à la maison pour lui parler. Mais il voulait rien savoir. Et en fait, il a tellement pas supporté que il sentait que je sortais de son emprise, qu'un jour, il m'a dit « Tu vas où ?» J'ai dit « Écoute, je pars. Je peux pas rester comme ça. C'est trop dur pour moi ce que je vis. » Il m'a pris par la gorge, il m'a collé contre le mur. C'était un homme très musclé, c'était un coach sportif, c'était un prof de musculation. Il m'a soulevé, je touchais plus terre. Et il était en train de m'étouffer. Et il m'a dit « Si tu pars, tu partiras d'ici morte. » Et c'est là que mon fils, Théo, est venu en courant. Et je crois que c'est la grâce de Dieu et Dieu m'a sauvée, comme ça. Et il a pris la jambe de son père, il a donné des coups de pied dans la jambe de son père et il a dit « Papa, papa, lâche maman, tu vas la tuer. » Il était un tout petit peu plus grand que ma fille là. Et je pense que ça lui a fait un électrochoc, il m'a lâché. J'ai pris mon fils d'un côté, mon sac de l'autre et je suis partie. Et vous savez, ça a été un moment très compliqué de ma vie. Parce que j'avais plus rien, parce qu'il fallait tout recommencer. Mais j'avais Dieu. Et c'est là où Dieu m'a reconnecté avec Déborah. On était des amis d'enfance, de l'époque, quand on était petites. Et un jour, on s'est retrouvées toutes les deux dans cette église. Et là, elle m'a dit, je te laisse pas, je suis avec toi. Et en l'espace de 2 semaines, j'ai tout trouvé. Un appartement, une voiture, des meubles, tout ce dont j'avais besoin. Et c'était juste miraculeux. Quand j'ai fait cette rencontre avec Dieu, je me suis dit, à partir de maintenant, c'est un vrai nouveau départ. Et c'était un vrai nouveau départ. Et j'ai eu ce nouveau départ où j'ai commencé à fréquenter cette église, j'ai commencé à grandir spirituellement, j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et c'est là où j'ai rencontré l'homme qui deviendra le papa de mes 2 enfants, de mes 2 garçons qui ont suivi. Sur les bancs de l'église. Et j'étais très heureuse. Parce que je me suis dit, waouh, quelque chose qui est vraiment conduit par le Seigneur. Quelque chose où, voilà, c'est un chrétien, il est là, et je sentais, je me disais, Seigneur, tu conduis les choses. Et c'était dans un premier élan beau à voir. Cet homme qui s'était converti même avant moi, qui s'était fait baptiser avant moi. Et en fait, on s'est mariés. Et on a eu deux beaux garçons. Ethan et Jonas. Et un jour, je découvre que Christophe me trompe. Je l'avoue que honnêtement, c'était un tel choc. Je me suis dit, c'est pas possible en fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se passe comme ça? Et en fait, il faut savoir que Christophe, avant que je le rencontre, il était dans le milieu de la drogue. Il avait été cocaïnomane, héroïnomane, complètement plongé dans l'alcool. Il avait eu des gros problèmes d'addiction et Dieu l'a libéré instantanément du jour au lendemain. Il avait vraiment vécu une transformation, une guérison, une délivrance extraordinaire. On avait fait des semaines d'évangélisation où on allait dans différents pays pour dire combien il a été touché, combien il y avait des personnes qui se convertissaient au travers de son témoignage. C'était glorieux. C'était glorieux. Mais un jour, il s'est fait rattraper par son passé. Parce qu'il a cru à des mensonges. Parce que peut-être qu'une fois ou l'autre, il a un peu glissé. Et le diable est direct venu l'accuser. Et lui a dit, regarde, en fait, t'es le même. Regarde, tu changes pas. Regarde ce que tu fais. Et au lieu de prendre position, il s'est accordé avec la parole de l'ennemi. Et il a laissé accès à l'ennemi dans sa vie. Quand j'ai su qu'il m'avait trompé, j'ai dit, écoute, Christophe, c'est simple. Moi, je suis prête à te pardonner. Mais je veux que tu me choisisses. Et je veux que tu choisisses ta famille. Je ne peux pas te forcer à me choisir et je ne peux pas te forcer à rester avec moi. Ni à rester dans la vie avec Dieu. Et il m'a dit, je sais. Je lui ai laissé un temps pour réfléchir. Ça a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il en est? Et j'ai su qu'il était de nouveau allé voir cette femme. Et il m'a regardé, il m'a dit, écoute, c'est trop dur pour moi. Je peux pas rester chrétien, ça me correspond pas, je me rends compte que j'y arrive pas. Et il m'a dit, je suis désolée de pas être à la hauteur. Et il a pris sa valise. Et il m'a abandonné. Et il a abandonné ses fils. Vous savez, la parole qui dit, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Moi, je vous assure que je me suis dit, Seigneur, mais tu savais pas ça? Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Tu savais pas ça? Pourquoi tu m'as fait rentrer là-dedans? Je t'ai fait confiance. Vous savez ce que j'ai reçu de la part de Dieu? Moi aussi, je lui avais fait confiance. Mais il a choisi délibérément de retourner la veste. Et il a dit, je l'aime tellement que je le laisse libre de partir. Et on dit, l'amour rend libre. Donc vous imaginez, après ce que j'avais vécu déjà avant, double échec, double incompréhension. Je me suis mise en colère avec Dieu. J'ai dit, je comprends pas, je ne sais. Mais j'avais une telle relation avec mon papa que cet amour que j'avais pour Dieu m'a gardée sur le droit chemin. On a divorcé le 12 décembre 2012. Et donc, à ce moment-là, effectivement, je perds tout. Mon mari, ma famille idéale, mon travail dans le milieu chrétien. Parce que je travaillais à ce moment-là dans une radio chrétienne. Et les choses ont fait qu'à un moment donné, c'était devenu trop compliqué. Et j'ai décidé de partir. Et Dieu m'a menée, et il a ouvert d'autres portes, mais dans le milieu séculier. Mais vous savez quoi? Ça a été une telle bénédiction. Parce que je me suis retrouvée là, dans le milieu séculier, où j'ai été formée d'une manière telle, dans mon milieu professionnel, pendant 8 ans dans cette radio, où j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui m'ont formé, qui fait qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai accumulé, je peux le redonner à Dieu. L'excellence dans laquelle il m'a placé, je peux lui rendre. Et je sais que c'est, même si sur le coup, j'ai pas compris pourquoi d'un coup, tout avait été rasé, coupé, même le milieu dans lequel je travaillais, c'était un temps de formation. Pour moi. Mais aussi pour lui. Quand j'ai évolué dans ce milieu-là, un jour, je laisse finir, c'est pas grave. Quand j'ai évolué dans ce milieu-là, un jour Dieu m'a dit, ma fille, il est temps que tu reviennes dans les médias chrétiens. Et j'ai commencé à faire des vidéos où Dieu m'a dit, maintenant ce que tu as appris, l'assurance que tu as eue, tout ce que tu as emmagasiné, toute l'assurance que je t'ai donnée, tu vas pouvoir l'utiliser pour le royaume. Et tout ce temps-là a été un temps de formation, non seulement professionnel, mais aussi dans mon intimité avec Dieu, dans la confiance que j'ai mis en lui, dans ma foi, et dans toutes les expériences et tout le réseau même que j'ai développé. Un jour, Dieu m'a dit, maintenant, tu reviens dans les milieux chrétiens. Et j'ai commencé à revenir dans une radio chrétienne que vous connaissez peut-être, Radio R. J'ai travaillé 2 ans pour Radio R. Je faisais la matinale. Toutes les portes sont ouvertes, les unes derrière les autres. J'ai commencé à entrer, à travailler pour Joyce Meyer Ministries. Je présentais un livre par mois. Et du coup, Dieu m'a poussée à rentrer dans un jeûne à mes 40 ans. Ça faisait quelques années que, là aussi, je vivais avec mes enfants depuis quelques années seule. Et Dieu m'a poussée dans ce jeûne et il m'a dit, commence un jeûne de 3 jours. Ok, je vais commencer ce jeûne de 3 jours, ça marche, je vais le faire. Pas de souci. Et au bout de 3 jours, je dis, ok, maintenant, ben tu vas aller jusqu'à 1 semaine de jeûne. Alors mon jeûne, c'était de boire sans manger, hein, mais je buvais quand même. J'ai poursuivi jusqu'à 1 semaine. Au bout d'une semaine, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu continues jusqu'à 10 jours. Bon, ça commençait à faire beaucoup, mais je me suis dit, bon, de 7 à 10 jours, ça va. Et j'ai poursuivi jusqu'au 10e jour. Et j'ai dit, et maintenant? Et je sentais que petit à petit, il y avait des choses qui, comme se détachaient à l'intérieur de moi. Et au bout du 10e jour, il m'a dit, je t'annonce une grande nouvelle. Tu vas faire aujourd'hui un jeûne de 40 jours. Et là, je dis, wow, t'abuses. 40 jours! Mais là, l'humour de Dieu, c'est que je pense que si j'avais su dès le départ que j'allais faire 40 jours, j'aurais même pas commencé les 3 jours. J'ai fait ce jeûne de 40 jours et au bout du 30e jour, j'étais dans ma cuisine. Quand j'avais couché mes enfants, en plus, il faut savoir que pendant ces 40 jours, je faisais la cuisine à tous mes enfants, hein, mais j'avais aucun problème. Mes enfants, si vous leur parlez de ce moment-là, ils vous diront, ma mère n'a jamais fait autant de repas et de nouvelles recettes que pendant le jeûne de 40 jours. Ils étaient étonnés. Et moi aussi, d'ailleurs. Et le 30e jour, dans cette cuisine, quand mes enfants étaient couchés, j'étais là et je disais, Seigneur, maintenant je passe ce temps avec toi. Et je sentais que j'étais comme portée. Vous savez qu'on fait un jeûne aussi long, que vous priez, que vous mettez des temps. Il y a une dimension nouvelle dans laquelle vous rentrez. Il y a quelque chose qui n'est pas naturel, qui est surnaturel. Et au 30e jour, dans ma cuisine un soir, j'ai senti une force qui m'a appuyée sur les épaules, qui m'a mis à genoux dans l'église, dans ma cuisine, et ça m'a fait justement penser à le jour où je suis rentrée à l'église pour la première fois, où je suis tombée à genoux. C'est cette même force qui m'a poussée à terre. Et je me suis retrouvée à genoux dans ma cuisine. Et j'ai dit, Seigneur, t'es là. Et j'ai senti la présence palpable de mon Dieu. Et là, il me dit, je veux te montrer quelque chose. Et j'ai comme une vision. Et je me vois petite fille. Encore une fois, en train de prier. Et en y réfléchissant, je me demande si c'est pas là où j'ai été baptisée du Saint-Esprit, cette vision-là. Et il me dit, je te demande d'aller prendre cette petite fille dans les bras. Va la chercher. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi ? Va la chercher, va la serrer dans tes bras et va lui dire qu'elle a le droit d'exister, qu'elle avait le droit d'être aimée et que moi, je l'ai toujours aimée. J'ai dit, ok, je vais y aller. J'ai pris cette petite fille dans les bras, moi. Et il y a eu comme une espèce de fusion à ce moment-là. Comme une espèce de « j'ai retrouvé mon identité ». Il y a quelque chose qui m'avait été enlevé par l'ennemi que Dieu m'a rendu ce jour-là. Quand j'ai fait ça, j'ai levé mes yeux au ciel, j'ai envie de dire, parce que je voyais pas le plafond de ma cuisine, je voyais le ciel. Et là, Dieu m'a dit « maintenant, je t'appelle d'un nouveau nom ». Je dis, ok, tu m'appelles de quel nom ? Il me dit Jeanne. Et Jeanne, en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à mes 40 ans, je m'appelais Myriam. Myriam, ça veut dire... Myriam en hébreu, quand vous faites la recherche, l'étymologie du mot, il y a deux significations. C'est goutte de mer ou rebelle. Et Jeanne... Ça veut dire Dieu pardonne, Dieu fait grâce. Et en fait, ce soir-là, il m'a donné une nouvelle identité. Ce soir-là, il m'a appelé d'un nouveau nom. Et vous savez, quand Dieu appelle d'un nouveau nom, c'est souvent à des tournants bien précis de vos vies. Et on le voit d'ailleurs dans plusieurs hommes et femmes de Dieu. Je me suis retrouvée là en sortant de ce moment-là et me suis rendu compte que le dernier jour de mon jeûne était le premier jour du reste de ma vie. Le dernier jour de mon jeûne était le jour où j'ai rencontré le directeur du Top Chrétien qui voulait me rencontrer et qui m'a dit « je veux absolument vous voir Jeanne, j'ai des choses à vous dire ». On s'est rencontrés, c'était là où mon jeûne était cassé. Et où ça a été une connexion divine. Une connexion divine. Il m'a dit, c'est là que je t'appelle. Je t'appelle à être présente et à mettre toute ta force, toute ta foi et tout ce que tu as appris dans ta formation dans les médias chrétiens pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et j'ai dit, waouh, moi, avec ce que j'ai traversé? Il a dit, oui, toi, justement, parce que tu l'as traversé. J'ai été surprise de voir comment Dieu a fait ça avec moi. Et je suis rentrée dans une intimité vraiment nouvelle avec lui. J'ai voulu faire ce qu'on appelle une alliance avec Dieu. Et je me suis fait une petite cérémonie avec Jésus. J'ai acheté un anneau. Et je me suis dit, ça y est, je vais faire de Jésus l'homme de ma vie. Maintenant, c'est terminé. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire être l'épouse. Et peu de temps après, Dieu m'a fait rencontrer l'époux, qui est ici à mes côtés, Luc, qui est l'homme prêt à m'accompagner sur ce chemin nouveau. Et aujourd'hui, nous faisons ensemble... tous les deux, le ministère que Dieu nous a confié avec beaucoup de joie. Et on est une famille recomposée. Et vous savez, je crois que Dieu fait rien au hasard. Il y a tellement de plus en plus de familles recomposées aujourd'hui et dans les églises aussi. Et c'est compliqué. Mais des fois, on le choisit pas. C'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qu'on subit, le divorce. Mais qu'est-ce qui se passe après pour ces gens qui n'ont pas eu le choix? Il faut pouvoir y répondre. Il faut pouvoir dire quelque chose. Il faut pouvoir dire qu'il y a une espérance derrière tout ça. Et donc, moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, avec ce que j'ai traversé, et ensemble aujourd'hui aussi avec Luc et avec notre belle petite fille qui est ici présente, on veut être un message d'espoir et d'espérance que Dieu donne des nouveaux départs. Quand on est soumis à sa volonté, quand on est intègre, Quand on a un cœur vrai, Dieu regarde au cœur. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Soyez bénis et merci de m'avoir écouté.